Sujet qui est un peu sensible pour les Québécois.
Which one?
Excusez.
Ça fesse. Wow! Ça fesse dans le dash.
Si vous avez lu ou vu les textes qui sont à l'horaire, c'est un texte qui parle de l'argent. Alors, je suis obligé de vous prêcher sur l'argent. Mais vous allez voir, c'est très positif, honnêtement. Puis là, ce matin, on va voir deux exemples impressionnants, vraiment impressionnants. Deux exemples impressionnants parce que, je vais vous donner le contexte, Paul écrit aux Corinthiens, on est dans la deuxième épître aux Corinthiens, donc Paul écrit aux Corinthiens, et il parle des chrétiens de Jérusalem, les Juifs, donc, les premiers convertis de l'Église chrétienne. Et ces Juifs-là, ils ont été profondément persécutés. Et à cause de cette persécution, plusieurs ont perdu leurs emplois. En tout cas, bref, ils étaient raides pauvres. Et Paul parle d'une collecte spéciale, d'une offrande qui a été mise en place l'année précédente. On parle quand même d'un projet à moyen terme. Hein? Et pour aider les chrétiens de Jérusalem. Et cette collecte spéciale, c'était pour les aider. Puis là, il va donner comme exemple, dans le texte qu'on va lire aujourd'hui, l'exemple des Macédoniens, donc des gens chrétiens de d'autres églises de l'extérieur de Jérusalem et de Corinthe, qui ont eu à cœur et ont pris les affaires en main pour participer à cette fameuse offrande. Et Paul va utiliser leur exemple dans le texte qu'on va voir pour encourager les chrétiens de Corinthe d'avancer avec le projet de l'offrande. Parce que, on va le lire, ils s'étaient engagés à le faire. Et qu'est-ce que je veux tirer comme principe aujourd'hui important, c'est qu'on parle bien sûr dans ce texte d'une collecte ponctuelle. Ce n'était pas l'offrande du dimanche matin qu'on amène au Seigneur sur une base régulière. C'est un peu une offrande autre, à part, mais les principes qu'on voit dans ces textes-là s'appliquent très bien à ce qu'on appelle, nous, notre offrande régulière. Le don qu'on amène le dimanche matin, par exemple, pour adorer Dieu et pour que l'Église aussi, bien sûr, progresse dans ses activités. Alors, on lit ensemble, si vous voulez bien, c'est un court texte quand même, de 2 Corinthiens, chapitre 8. Et on veut juste lire les neuf premiers versets, comme ça a été annoncé. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donner volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints de Jérusalem, sous-entendu. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'exemple du zèle des autres, sous-entendu les Macédoniens, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Encore une fois, on va prier. Seigneur, j'aimerais juste que tu te manifestes au milieu de nous ce matin, que tu m'accompagnes, Seigneur, que tu me diriges, mais aussi que tu sois avec mes frères et sœurs ici, afin que nous ayons toute cette attention nécessaire lorsque nous lisons, lorsque nous fouillons, Seigneur, dans ta parole, pour que tu nous aides tous et chacun à mieux comprendre quelle est ta volonté, volonté révélée, Seigneur, dans ces textes d'une façon quand même assez précise. Alors, on veut te bénir ensemble et implorer cette bénédiction particulière que nous faisons et demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on va voir, j'ai divisé mon message d'une façon parfaitement illégale, pas illégale, mais inégale. Les versets 1 à 8, dans un premier temps, où je vais vous partager 9 éléments, 9 caractéristiques concernant les offrandes que nous retrouvons dans ce texte-là. Et finalement, le verset 9, tout à la fin, un court extrait où on va parler d'un autre sujet, d'un autre exemple. Et pour votre intérêt, les textes qu'on pourrait lire, que je ne lirai pas, 1 Corinthiens 16, les 4 premiers versets, ça parle du même sujet. Romains 15, versets 26 et 27, ça parle aussi du même sujet. Alors, la première chose, c'est l'exemple des Macédoniens, puis ça concerne, comme je viens de le dire, les 8 premiers versets. La Macédoine, en passant, c'est une province romaine au nord de la Grèce. Moi, je suis pourri en géographie. Depuis que j'ai été en Israël, je me suis intéressé un petit peu plus, mais pas plus qu'il faut. Puis les églises de Philippe, Thessalonique, de Bérée, font partie de ce qu'on appelle la Macédoine. Voici donc en quoi les Macédoniens peuvent être imités. Alors, le don des Macédoniens était premièrement un don motivé par la grâce de Dieu. Ça, c'est le verset 1 qui nous le dit. Je le dis ici dans une version qu'on appelle « Parole vivante ». Il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué tantôt. Paul parle de la grâce de Dieu qui s'est manifestée à travers des églises qui existaient et qui ont donné des sous. L'argent, vous savez, je ne vous l'apprendrai pas, ça ne pousse pas dans les arbres. On a bien beau être d'embauche, mais c'est tout le même principe partout. Mais la grâce de Dieu passe, j'allais dire souvent, non. La grâce de Dieu par rapport à l'argent passe toujours par les mains des chrétiens, les mains du peuple de Dieu. Vous comprenez ça? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà reçu un montant d'argent qui n'était pas d'abord à quelqu'un, qui a été gagné? Alors ça, c'est le principe. Et je trouve ça beau parce que, vous savez, Serge Côté, vous avez parlé de Serge, qui était directeur général de publication chrétienne. Ils ont déménagé il y a quelques années. Et puis, ils ont ramassé en don 360 000 $ pour les aider à acheter le bâtiment. 360 000! On s'entend-tu que c'est beaucoup de sous? Et j'ai appris récemment, je ne le savais pas, que chez nous, à l'Assemblée, il y a eu... On a parlé de cette offrande spéciale. Et puis, le comptable me dit, « Bien, François, il y a 15 000 $ qui ont été donnés de notre assemblée. » Puis ça, c'est pas dans le budget. C'est des dons supplémentaires qui ont été faits. Alors, moi, je me suis dit, « Wow, c'est vraiment impressionnant. » L'Heure de la Bonne Nouvelle, si vous lisez les journaux de l'Heure de la Bonne Nouvelle, vous êtes au courant que ça faisait depuis le mois de mai qu'il n'y avait plus d'argent. Puis là, nous, on y va par la foi. C'est quand même 325 000 $ par année. Tu ne trouves pas ça dans le fond de tes poches ou dans le fond d'un tiroir. Alors, on a prié, on a fait envoyer une petite lettre là, qui informait les frères et sœurs du besoin, et on a eu 100 000 $ dans le temps de le dire, dont un héritage de 50 000 $ qui est venu comme ça, exactement là où on en avait cruellement besoin. Alors, on a été encouragés, pensez-vous? Hein, oui. Mais les Macédoniens ont vu comme une grâce la possibilité de contribuer à cette offrande spéciale que Paul avait mis sur pied. Puis, il parle étant une grâce de pouvoir donner. Une grâce, c'est un privilège. Il y a plusieurs définitions, mais une grâce, c'est un privilège. Tu sais, « Hey, peux-tu me faire quelque chose pour moi? » Mais ça, c'est « Je voudrais te donner quelque chose. » C'est ça, le concept. Et puis, la générosité des Macédoniens est une preuve ou une évidence qu'ils avaient eux-mêmes compris et reçu la grâce de Dieu. Et c'est ce qui les a motivés à participer à ce projet. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans l'épître de Tite, je ne le lirai pas, mais ça dit « La grâce de Dieu nous... » Quelqu'un? La grâce de Dieu, dans Tite 2, elle nous enseigne. C'est pas... Moi, je pensais que c'était la loi de Dieu ou l'obligation morale quand tu es chrétien. Non, c'est tellement la grâce a été généreuse envers toi que ça délie les cordons de la bourse. Hein? Juste ça. Alors, un don des Macédoniens était aussi un don, deuxième chose, un don malgré leur situation. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur pauvreté profonde. C'est pas rien, là. On parle pas de ceux qui recevaient la collecte. On parle ici de ceux qui donnaient, qui parlent d'affliction puis de pauvreté profonde. Les circonstances de ces Macédoniens étaient loin d'être idéales. Ils étaient eux-mêmes pauvres et persécutés. Pauvres que, moi, je pense que c'est pour eux qu'on aurait dû organiser une collecte, mais c'est eux qui ont donné. Alors, moi, je suis un peu impressionné, pour être bien honnête avec vous. Un don malgré leur pauvreté, c'est ce qui a fait d'eux un modèle pour l'apôtre Paul et un modèle qu'il voulait partager aux chers Corinthiens à qui il écrivait. Ça produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Tu sais, leur pauvreté profonde, là, ça produit de riches libéralité. Ce n'est pas juste des pinottes, des riches libéralités de leur part. Il semble que pauvreté profonde et riche libéralité sont volontairement mis en contraste ici par la plume de l'apôtre pour que, en fait, voulant souligner l'illogisme de ses propos. Mais c'est vraiment une réalité. C'est pas comme certains qui exagèrent beaucoup. Je pense que Paul n'exagérait pas lorsqu'il dit ça. Puis il parle de leur affliction à travers la grande épreuve de leur affliction. Puis le mot affliction ici, c'est le même mot qu'on utilisait pour écraser les raisins quand on faisait quand on ramassait les raisins, la vendange. Il ne faut pas confondre avec les vidanges. Alors, c'est ça. Puis, dans un autre texte, un peu plus loin, dans 1 Thessaloniciens, ça dit que les Macédoniens ont reçu la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. Donc, c'est aussi nommé ailleurs que c'est une réalité. Puis, il dit dans 1 Thessaloniciens 2, qu'on n'a pas lu, « Vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles, sous-entendu les églises de la Judée, donc de Jérusalem, ont la même chose qu'eux ont souffert de la part des Juifs contemporains non chrétiens, on s'entend. C'est, ceux qui se convertissaient parmi les Juifs étaient drôlement persécutés de la part des Juifs parce qu'ils étaient très menacés, eux autres, surtout dans leur religion. Donc, on a vu un don motivé par la grâce, un don motivé par malgré leur situation, et maintenant, un don qui est fait avec joie. Troisième principe, Il parle d'une joie débordante. Ils n'ont pas eu, ils n'ont pas donné à contre-cœur, ils n'ont pas eu de réticence par devoir, par contrainte, mais avec joie. Et c'est plus qu'une joie, ça dit une joie débordante. Ça, c'est beaucoup de joie, là. Ça renverse la terre, là. T'sais, c'est comme par-dessus, ça déborde, quoi. Et encore là, on a une drôle d'équation ici. Une grande détresse plus pauvreté profonde égale joie abondante et riche libéralité. Hey! Tu dis, c'est pas humain, ça, là. Mais c'est ça. Puis là, j'ai envie de vous poser une question plate. Quand je prépare mon offrande le dimanche matin, c'est qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Tu sais, j'ai dit, j'ai un frère que j'ai connu, que j'ai bien aimé, puis il avait des drôles d'idées des fois. Et il m'a dit une fois, moi, il dit, François, je ne donne pas à chaque semaine. Parce que le texte, là, c'est une offrande spéciale de donner à chaque semaine dans 1 Corinthiens. Puis, il dit, moi, je ne donne pas à chaque semaine, je donne 2 fois par année. Puis là, c'est sûr qu'il donnait un mouton, OK? Des milliers de dollars équivalentes à son offrande hebdomadaire. Puis il m'avait dit une fois, ah, il dit, écoute, ça me fait mal quand je fais mon chèque. Faisant-le à chaque semaine, ça fait bien moins mal. Mais comprenez-vous, c'est quoi mon attitude? Est-ce que je le vois comme un privilège de contribuer? Puis, tu sais, en passant, Dieu n'a pas besoin d'argent. Hein? Pas cassé, lui-là, tu sais, je veux dire. Mais Dieu prend plaisir dans l'offrande. Et c'est une voie que Dieu utilise pour faire soutenir, en fait, son œuvre. Tu sais, c'est pas Dieu, je vous l'ai dit, ça ne pose pas dans les arbres l'argent, puis c'est dans le plan de Dieu que ça fonctionne comme ça. Il y a bien sûr ce fameux verset, Jésus a dit là, qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, puis j'aime dire à la blague que ce n'est pas un boxeur qui a dit ça. Tu sais, c'est vraiment, ça parle d'argent, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Puis Dieu aime celui qui donne avec joie, j'aimerais le faire remarquer, dans 2 Corinthiens 9, 7. Alors, notre attitude, quand on donne, est plus importante que le montant qu'on donne. Vous êtes d'accord avec ça? Notre attitude, quand on donne, est plus importante que le montant qu'on donne. Clairement, la joie des Macédoniens n'est pas humaine. Paul nous donne le secret. Parce que si ça ne se peut pas, humainement parlant, il y a un secret, il y a une raison pourquoi ça se peut pour de vrai. Et il dit, dans 1 Thessaloniciens 1, 6, « Recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. » Ce n'est pas une joie naturelle, on en convient, mais c'est une joie possible pour ceux et celles qui sont sauvés, qui, bien sûr, automatiquement ont le Saint-Esprit. Le don des Macédoniens était aussi un don volontaire. Ils ont, Paul dit, je l'atteste, donné volontairement. Au verset 8, il va dire, je ne vous donne pas un ordre. Donc, c'est très bien souligné le concept ici de l'aspect volontaire de la chose. Alors, une des caractéristiques du Nouveau Testament concernant l'argent, ou les dons, ou l'offrande, ou la dîme, que j'aime pas ça, parce que ce n'est pas un concept du Nouveau Testament, ou pire encore, la quête. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça, mais tu sais, ah oui, je donne à la quête, ouais, j'ai donné à la quête. On ne quête pas, puis Dieu, ce n'est pas un quêteux, hein? c'est un fait. Mais dans l'Ancien Testament, la dîme, le 10% était obligatoire. Et Dieu même accuse Israël, son peuple, de le voler parce qu'ils n'apportaient pas leur dîme au temple. Parce que c'était une obligation dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, on a fait table rase. Et c'est un autre concept complètement différent qui s'applique. Paul a été témoin, il dit, je l'atteste, que les Macédoniens ne se sont pas fait prier pour donner. Dès qu'ils ont entendu la nouvelle, le besoin, ils ont tout de suite dit présent. Puis moi, je pense probablement que les Macédoniens, Paul ne les aurait pas... Paul les aurait pas... Paul ne les a pas demandé à eux. Parce que les Macédoniens, c'est marqué, ils ont supplié Paul de participer. Tu sais, si moi, je ne sais pas, moi, j'en fais une offrande spéciale, puis je vais voir Gilles, puis je sais que fait 6 mois qu'il ne travaille pas, il n'y a pas une scène de revenus, puis on fait une offrande spéciale pour quelque chose, peut-être que je n'irai même pas le voir. Comprenez-vous? Parce que je sais qu'il n'y a pas une scène. Mais là, eux autres, là, ils ont dit, non, s'il te plaît, Paul, on veut participer, nous autres aussi. Tu ne nous l'as pas demandé, là, mais on veut participer. Fait que c'est quand même impressionnant, non? Ils avaient donc été ni contraints, ni manipulés, ni intimidés, mais avaient donné en toute liberté. Pas comme une église que j'ai entendu dire, qui est vraie en passant, là, une église évangélique, là, bon, un petit peu avec laquelle je ne collabore pas tellement, mettons. Là. Mais il y avait eu une offrande, puis il y avait des gros besoins, parce qu'il avait fait un bâtiment épouvantable. Et puis là, ils comptent l'argent, puis avant que le culte finisse, la rencontre, ils reviennent, puis ils disent, écoute, on n'a pas eu assez d'argent, on va repasser une deuxième fois le chapeau. Et c'était pas ça que les Macédoniens avaient vécu, là. Pas du tout. Puis comme on le voit au chapitre 9, dans la même épître de Corinthe, la deuxième aux Corinthiens, que chacun donne, comment? Comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Pourquoi? Quelqu'un le sait? Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu, ça ne tente pas de recevoir une offrande à reculons. Alors, cinquièmement, un don selon leurs moyens. OK? Un don selon leurs moyens. Paul avait déjà dit que l'on devrait donner selon sa postérité dans 1 Corinthiens 16, verset 2. Donc, en relation avec ce que tu as et non de ce que tu n'as pas. Ce n'est pas tant le montant qui importe, mais la proportion qu'il représente. Ce n'est pas ce qu'on donne, mais ce qu'on garde, M. Bernier aimait à dire pour ceux qui se rappellent de lui. Et c'est ça ici le concept. Ce n'est pas tant le montant qui est important, mais la proportion qu'il représente. Un milliardaire donner 100 000 piastres, c'est un montant infime en ce qui concerne son budget. Mais quelqu'un qui vit de prestations de l'aide sociale puis qui donne 20 piastres, la proportion est probablement plus grande que le milliardaire qui donne 100 000. Vous me suivez? Pas compliqué, là, c'est mathématique, mon affaire. Alors, sixièmement, un don sacrificiel. Ça, c'est important et intéressant. Sixième principe. Et même, Paul dit, ils ont donné selon leurs moyens. Parfait, ça, c'est le principe. Mais eux, ils ont été plus loin que ça. Ils ont donné plus, au-delà de leurs moyens. Certains d'entre eux ont été jusqu'à donner plus que ce qu'ils étaient capables. Privés probablement de choses essentielles pour donner à quelqu'un d'autre. Levez la main ceux qui ont... Non, faites pas ça. Mais levez la main, non, mais ceux qui ont souvent donné en se privant de l'essentiel. Bon. Je ne sais pas trop comment je me prive quand je donne, mais franchement, il manque de rien. Mon frère Martin Lébreux, que vous connaissez bien, il aime à dire une coche au-dessus. Tu sais, le chrétien est appelé à aller une coche au-dessus, sortir de la normalité pour aller dans le, j'allais dire peut-être extraordinaire ou spécial. Et leur don a été au-delà de ce qu'on aurait pu s'attendre. Hein. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, là on est un peu caché, mais ça, c'est Nicole Saint-Louis que vous connaissez, le papa, Fernand Saint-Louis. Ça vous dit quelque chose? Nicole, elle a fait un geste extraordinaire et elle est décédée d'un cancer, jeune femme, vraiment jeune femme, probablement à l'âge, oh boy, on ne voit pas bien, mais il va falloir peut-être mettre des batteries dans votre canon. elle est décédée, mais ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. C'est que sa sœur, elle voulait aller aux études, puis elle avait reçu une bourse pour ses études. Et Nicole a décidé de donner sa bourse à sa sœur pour qu'elle puisse faire des études et elle renoncer à cette bourse-là. Elle, là, elle a fait plus. Elle a vraiment donné de ce qu'on pourrait qualifier de son nécessaire. Je ne sais pas comment l'histoire a fini, mais je sais qu'elle a fait ça. Tellement que suite à son décès, il y a la fondation Nicole Saint-Louis, que vous voyez là. Ah, OK, vous n'avez pas le... Moi, j'ai un carré là, en plein dans la patente. Il y a une fondation qui donne de l'argent aux étudiants maintenant. Ma fille a reçu déjà, je pense, c'est 1 000 ou 1 500, je ne sais plus trop. Et il attribue, les gens donnent à la fondation, puis eux, ils redonnent à des personnes qui veulent aller faire des études post-secondaires, mais pas universitaires. T'sais, mettons des techniques, des DEP. Ils les aident pour leur donner un petit coup de main. C'est le concept d'elle, ce qu'elle a fait. Mais elle a fait vraiment quelque chose de beaucoup plus que juste dire, je te donne un petit peu d'argent, je t'aidais un peu. Mais non, elle a vraiment donné ce qu'elle avait besoin, clairement. Malachie, puis moi, là, je vais lire ce verset-là, là, mais je ne veux pas tomber dans l'évangile de prospérité. Vous savez, c'est quoi l'évangile de prospérité? Donne, puis le Seigneur va te donner encore plus. Puis, l'évangile de prospérité, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment pas biblique, mais je peux dire que c'est un principe qui existe et qui est vrai, que j'ai expérimenté plus d'une fois dans ma vie. Et je lis le verset, là, Malachie 3:8, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes ». On est dans l'Ancien Testament, OK? C'est pour ça que ça parle de dîmes. « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Alors, Dieu se réjouit de voir des êtres qui étaient égoïstes, être transformés par la grâce de Dieu, et maintenant qui sont des hommes, des femmes, qui sont généreux envers les autres, envers l'œuvre de Dieu particulièrement. Si vous permettez, je vais vous partager quelque chose de très personnel. Vous avez connu Hérol Savard? Hérol, quand il est arrivé à l'Assemblée chez nous, il était à temps plein quand il était à Jonquière. Puis il est arrivé chez nous, puis nous, on a voulu qu'il soit aussi à temps plein. Alors, malheureusement, moi, j'étais déjà là. Les revenus étaient quand même pas très forts par rapport à l'idée de soutenir un deuxième ouvrier dans la même église. Alors, on a eu des discussions avec des églises au Lac-Saint-Jean, et puis on a partagé un peu le temps avec Hérol. Une semaine par mois, il allait au Lac-Saint-Jean, puis trois semaines par mois, il était à Québec, chez nous. Mais le problème, c'est qu'il n'y en avait pas assez de sous. Le budget ne permettait pas. Alors moi, j'ai dit aux frères, puis ça, j'aime pas ça de me citer en exemple, mais c'est mon histoire. Si vous voulez, j'aimerais mieux que ce soit quelqu'un qui le raconte, ça serait plus intelligent, mais je le fais pareil. Alors, moi, j'ai dit aux frères, j'ai dit, vous allez prendre une partie de ce que je reçois dans le budget de l'Église, là, et vous allez le transférer à Hérol, direct, en partant. Et moi, je me disais, si j'en ai besoin, je suis habitué, le Seigneur sait et connaît mes besoins, et après 30 quelques années maintenant où je dépends de lui, j'ai jamais manqué de rien. Alors, je savais que si j'en avais besoin, que Dieu allait pourvoir, puis si j'en avais pas besoin, savez-vous quoi? J'en avais pas besoin. Mais j'ai fait ça deux fois de suite. L'année d'après, j'ai refait la même affaire. Et les offrandes ont monté de telle sorte que ça ne m'a pas coûté tant que ça. Comprenez-vous? Dieu est fidèle. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire quand tu donnes 10 piastres que tu vas recevoir 100, puis si tu donnes 100, tu vas recevoir 1000. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que Dieu est fidèle. Tu y fais confiance, puis des fois, c'est un petit coup par la foi. Là, tu sais, est-ce que c'est sage que je donne autant? Ça se peut que ce ne soit pas sage, en passant. Fais manger ta femme et tes enfants, là. C'est une bonne idée, mais tu n'es pas obligé de lui donner du Thibault ou du Kentucky. Septièmement, je finis à quelle heure? Je ne me rappelle jamais. 11h30? Il faut que je donne mon message. OK. C'est bon. Il me reste encore 8 pages. J'ai 2 pages de fête. Non, s'il vous plaît. Donc, septièmement, j'ai 9 points sur ce premier point, puis l'autre, c'est un petit point rapide. Un don impliquant leur consécration. Ça, là, je pense que c'est le secret de leur générosité. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Si tu n'es pas consacré au Seigneur, pense-y même pas, tu ne seras jamais capable de faire un exercice comme les Thessaloniciens, les Macédoniens ont fait. OK? Oubliez ça. Pour donner comme les Macédoniens, il faut d'abord se donner nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne me rappelle plus l'auteur, il dit « L'acte suprême d'adoration ne consiste pas à donner de l'argent, à fréquenter une église ou à chanter des cantiques, ce qui, en passant, est toutes des actes d'adoration, mais de se donner soi-même. » Point à la ligne. Chers frères et sœurs, c'est lorsque on comprend ce que ça veut dire être racheté. Lorsqu'on comprend qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes, nous pourrons vraiment donner parce que nous serons conscients que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, notre temps, notre argent, nos dons, nos talents, est à lui et doit être utilisé pour lui. Amen. Alors, on va pouvoir dire avec Paul qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5,15. Huitième point. Ah, je l'avais ici le verset. Huitième point. Un don qui s'harmonise avec les autres vertus chrétiennes. On est toujours dans notre texte. Je n'ai rien pigé ailleurs. C'est là. Il dit, « De même que vous excellez en toutes choses, Paul dit, en parlant des Corinthiens, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » La libéralité n'est pas une vertu isolée. Elle n'existe ou elle est incapable d'exister en elle-même et à elle seule. Elle va nécessairement être parmi d'autres vertus chrétiennes. Ça ne se peut pas quelqu'un qui est juste... c'est juste ça, lui. Il donne, mais il ne vient pas à l'Église. Il donne, mais il ne s'implique pas. Il donne, mais il a une vie chrétienne 100% égoïste. Ça ne marche même pas. Alors, la libéralité n'est pas une vertu isolée, c'est vraiment important. Puis les Corinthiens excellaient dans plusieurs domaines. Hein? Quand on lit la première aux Corinthiens, là, il dit « Vous avez tous les dons, les gars. C'est incroyable comment vous êtes bénis. » Mais, tu sais, ils ont le don pour prêcher. Ils connaissaient super bien leur Bible. Ils étaient zélés pour Dieu à bien des égards. Mais il dit maintenant, soyez conséquents. Soyez conséquents, puis allez-y avec cette offrande, tu sais, pour les Juifs de Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem, allez-y. Il les encourage. Puis c'est un peu comme si Paul nous disait aujourd'hui, là, arrangez-vous pour être aussi bon pour donner que pour prêcher. D'être aussi zélé pour vos dons que pour votre implication. Comprenez-vous? Ça marche. Ça vient avec d'autres vertus. Notre implication ne remplace pas le don. Et le don ne remplace pas l'implication. Je le répète-tu? Notre implication ne remplace pas le don. Il y en a qui disent, « Ah ben moi, là, je fais ci, je fais ça pour l'Église, quand même que je donnerais moins. » Pas un principe, là. Non, notre implication ne remplace pas le don. Puis le don, bien, lui non plus, il ne remplace pas notre implication. On est d'accord? C'est pas moi qui l'invente, vous êtes d'accord, vous l'avez dit. Puis la dernière chose que Paul leur dit, c'est un don et la concrétisation de l'amour chrétien. Ça, c'est au verset 8. Le don est une manifestation de l'amour chrétien. Pour Paul, la participation à cette collecte manifeste et éprouve la sincérité de votre amour et l'authenticité de votre amour pour Dieu. Ça, c'est la version Semeur. Donc, il dit aux Corinthiens que l'offrande qui est en préparation maintenant, qui est proposée comme plan de match, bien, c'est une occasion de montrer là, que Ton amour, là, est vrai et sincère pour le peuple de Dieu. On n'aime pas seulement en parole, comme dit l'apôtre Jean, hein? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et vérité. Alors ça, c'est les 9 raisons, les 9 motivations, les 9 principes qu'on trouve dans l'offrande, dans ce cours, ces courts 8 versets. Mais le verset 9 est vraiment quelque chose, et c'est la deuxième partie de mon message, comme j'ai dit, qui ne durera pas longtemps. Car vous connaissez le verset, là, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. L'apôtre ne veut pas donner d'ordre, hein, au verset 8, il le dit. Pourquoi il ne veut pas donner d'ordre? Ça, c'est une question que je me suis posée. Et le verset 9, pour moi, est la réponse. Pourquoi il ne veut pas donner d'ordre? Une des raisons. À cause qu'il pense que ce n'est pas nécessaire lorsqu'on considère l'exemple suprême de Christ, qui, lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre. Vous comprenez? L'argument est béton. Garde du Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, je ne veux pas te donner d'ordre. Sois touché par cette grâce que Dieu nous a envoyée. Hein? Car, le mot « car », c'est important, les petits mots hein, dans la Bible. « Car, puisque vous connaissez la grâce de notre Seigneur. » Les Corinthiens ne réalisent peut-être pas l'ampleur de ce qui s'est passé chez les Macédoniens pour donner comme ils ont donné, mais certainement, ils ne devraient jamais oublier ou ne pas considérer la grâce de Jésus-Christ ou la grâce de Dieu qui s'est manifestée en Jésus. Et vous savez, le don de Jésus ne pourrait souffrir aucune comparaison, même avec cet exemple sublime des Macédoniens. C'est rien, les Macédoniens, ce qu'on fait. On s'entend que c'est quelque chose. Mais quand on met ça en comparaison avec la grâce de Dieu, Jésus-Christ qui a quitté la gloire de son ciel, comme dit le cantique, pour venir ici-bas, bien, il n'y a rien qui arrive avec ça. Puis quand on parle de la pauvreté de Jésus qui s'est fait pauvre, je ne pense pas que c'est une allusion ici au fait qu'il était pauvre et qu'il n'y avait pas grand-chose dans la vie. Hein? Il n'y avait même pas un lieu où poser sa tête à une certaine époque de son ministère. Oui, il était pauvre. Oui, il n'était pas riche. Mais le concept ici, c'est bien plus la gloire et la richesse du ciel qui est importante, que Paul souligne avec le fait de venir dans un monde pécheur, rebelle, dégueu. Excusez-moi. Je ne veux pas vous scandaliser, mais c'est dégueu, le monde. Aucune reconnaissance envers Dieu. Puis en plus, on réussit à le maudire parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Ça, c'est dans ce monde-là que Jésus est venu. Puis il veut nous partager sa gloire. Hein? Il dit maintenant, Père, dans Jean 17, « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. » Avant que le monde soit. Ça, c'est ça le don de Dieu, la gloire qui a quitté. Alors, Ah oui, c'est vrai, l'autre verset. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Pourquoi? Afin qu'ils voient ma gloire. Ou on va dire, afin qu'ils partagent ma gloire. C'est ça. Alors, je conclue de la façon suivante. Mon souhait, c'est que nous devenions aussi des exemples comme les Macédoniens l'ont été. Je peux vous dire que j'ai moi-même des personnes qui m'ont profondément inspiré en ce qui concerne le don. Et j'ai des exemples, mais je suis vraiment bouleversé à penser toutes ces choses-là. Puis quand on va avoir compris vraiment la grâce, ce qu'est la grâce, qui nous a été fait, puis que donner est aussi une grâce, bien, nous serons capables de donner malgré les circonstances difficiles. On ne trouvera pas 1000 excuses pour donner moins ou pas donner. On sera capable de donner avec joie, et pourquoi pas avec une joie débordante, tant qu'à y être, tout souvent donner pour le vrai, avec la joie débordante. On sera même capable de donner d'une façon sacrificielle, c'est-à-dire aller peut-être piger dans un budget que tu considérais important, Puis notre don sera une réelle concrétisation de l'amour chrétien. Alors, le zèle des Macédoniens devrait certainement être pour nous un exemple encourageant à être généreux, mais franchement, l'exemple suprême de Christ devrait aussi nous remplir, non seulement du désir de donner, mais aussi du désir de se donner. Tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. On prie peut-être? Seigneur, merci de ce que tu nous dis dans ta parole. Puis Seigneur, notre nature pécheresse, égoïste, elle n'aime pas ça tant que ça. Mais Seigneur, exerce nos cœurs, puis touche-nous par rapport à la grâce que tu nous as donnée, la grâce que tu nous as faite. Nous, comme on le dit souvent, des pécheurs qui étaient rebelles envers toi, mais qui ont été touchés par ton amour, où tu t'es révélé, tu as parlé fort à nos cœurs et tu nous as fait craquer pour que nous tournions vers toi. Alors maintenant, on veut vivre pour toi, on reconnaît qu'on t'appartient. Et ça, c'est corps, âme et esprit. Puis j'avais envie de rajouter notre porte-monnaie, nos économies. Seigneur, tout est à toi. Tu nous donnes comme la responsabilité d'être les gérants de ce que tu nous as donné. Et on aimerait que tu nous aides de le faire, de le gérer, de le vivre comme toi tu veux que nous le vivions. Et tout ça, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié et que ton peuple soit édifié. Amen, Seigneur.